France Culture.
Même si je prie pour vivre, rien ne me dit que je serai vivant dans une semaine. Et pas d'erreur, c'est de l'échange. Mauvais genre depuis Reims en ce samedi. Reims où se tient, comme chaque année, et ce jusqu'au 5 avril, Reims Polar, le festival international du film policier, un événement France Culture dont cette année la 6e édition. Une édition qui accueille cette année Gus Van Sant en invité d'honneur, mais également entre autres figures Emmanuel DeVos, Claire Denis, Guillaume Niclot ou Sébastien Marnier. Entre autres thèmes évoqués cette année, les films Ikeneri Corsi, les films noirs corse, le territoire de nos deux invités de ce soir, Frédéric Farucci et Thierry de Peretti. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais genre comme chaque année à pareille date à Reims, et heureux de retrouver le festival Reims Polar, donc je le répète, 6e édition du festival du film policier. Je suis avec Philippe Rouillet.
Bonsoir.
Philippe Rouillet, qui figure toujours le président du jury presse, bien
mais
sûr.
Mais oui.
Impitoyable, intransigeant.
Comme toujours.
Et terriblement mauvais genre. Donc bonsoir à vous, Philippe. Deux invités ce soir. Le premier, Frédéric Farucci, bonsoir.
Bonsoir, François.
Alors, très heureux de vous accueillir, déjà en tant que cinéaste, mais en plus en tant qu'auditeur, puisque je crois savoir que vous êtes un fan.
Oui, je pourrais être président du fan club le jour où il se créera.
Voilà,
le cas échéant.
Hors émission, on évoquera quelques souvenirs, vos meilleurs souvenirs de ce peut être cette émission. Et puis Thierry de Peretti nous rejoindra. Bonsoir Philippe Rouillet.
Bonsoir.
À mes côtés, bien évidemment, comme tous les ans à Reims, président du jury presse. Cette année, des choses intéressantes à signaler.
Ah bah comme
parmi
comme,
le programme
comme toujours,
que j'ai rapidement évoqué.
Dire, bon, il faut être discret sur la compétition, mais c'est vrai qu'il y a une rétrospective Serial Killer qui est quand même très mauvais genre, hein, qui permet, c'est très important, un festival comme celui-là, un festival très ouvert sur le public et également sur les scolaires. Et il y a vraiment, c'est une programmation qui est très intelligente. On voit vraiment l'essentiel du Serial Killer, de M le Maudit à Seven, en passant par Sifa pour l'assassin, le boucher. Là, il y a cette programmation. Il y a la programmation corse, évidemment, on va en parler. Il y a... On a remis le prix Claude Chabrol au film de Thomas Gijol, Indomptable, l'occasion de revoir ce film, et puis des avant-premières. Enfin, on a quand même fait une ouverture avec Gus Van Sant, un des cinéastes américains les plus intéressants du moment, qui était là, ici à Reims, pour présenter La Corde au cou en avant-première. Le film sortira le 15 avril partout en France.
Très bien, bah j'espère que vous êtes mis en appétit, chers auditeurs. Demain encore, une journée de festival. Vous savez où aller. Je rappelle quand même que Mauvais genre est présent sur les réseaux sociaux avec Facebook et puis bien sûr Instagram, Mauvais genre FC. Et puis je salue les élèves de Media School.
Bravo.
Voilà, dont certains ont appris, puisqu'ils ont poussé le mauvais genre jusqu'à venir avec un maquillage de trou au milieu du front, ce qui est tout à fait exquis et qui indique bien leur orientation, en tout cas leur imaginaire propre. On va commencer bien évidemment par entendre Laurent Polleret dans ses œuvres, puisque je lui ai, comme à chaque fois, demandé d'illustrer le thème de l'émission, la Corse noire, selon Laurent Polleret. Allons-y.
Il n'y a pas de vendette sans qu'il y ait au départ une agression, et généralement une agression qui touche à quelque chose d'essentiel, soit la vie, soit l'honneur.
En Corse, on appelle ça l'affront ou scherzo. Lorsqu'on a subi un affront, souvent s'entraîne une représaille directe de la part de celui qui a subi l'affront et qui se fait sous la forme d'un... violente, d'un assassinat, d'un meurtre.
Même si l'agression première n'est pas un meurtre, la sanction, elle, sera un meurtre qui en entraînera évidemment d'autres.
Cette photo me rappelle ma 17e vendetta.
Wonderful.
Sous prétexte de l'épouser, un jeune vaudevillon s'était permis d'embrasser ma cousine dans le cou.
Et vous l'avez tuée?
Non, pas tout de suite, je vais commencer par son oncle, histoire de lui faire entendre gentiment qu'il fallait régulariser au plus vite. Et le séducteur étant marié, je fais donner la Marie-Jeanne.
La Marie-Jeanne?
Canon, là. Paf!
Ah, oui.
Merci, merci beaucoup. Merci, merci beaucoup.
Voilà, la Corse noire, selon Laurent Bollin. On peut en savoir un peu plus. Je salue Thierry Peretti qui vient de nous rejoindre, qu'on a réussi à arracher à ses devoirs d'invité, de présentateur et de conférencier. On peut en savoir un peu plus sur ce qu'on a entendu, Thierry Peretti. J'ai vu que vous réagissiez à un des sons, là.
Alors, mais je me posais la question de ce que, de l'origine de la source de ce qu'on a entendu. Alors,
je demanderai à Laurent Polleret.
J'ai reconnu, évidemment.
La musique, c'est Morricone, en quatre sur un citoyen au-dessus de tout soupçon, le voilà. Film de Elio Petri.
D'accord, j'ai reconnu Louis de Funès, évidemment. Je ne peux pas le sourcer plus que ça.
On demandera à l'Europe de nous en dire plus. Vous savez qu'il est extrêmement secret sur ses sources, ses citations. Donc on essaiera de le convaincre. Alors, j'ai noté dans un de vos DVD, un petit livret qui était joint, Thierry Peretti, cette phrase « On subit un imaginaire qui n'est pas le nôtre ». Est-ce que cette phrase vous semble résumer un peu, avant que l'on parle de vos films respectifs, je dirais, grosso modo, le problème que posent un petit peu les films sur, avec, à propos de la Corse ?
Oui, bon, c'est une phrase comme toutes les phrases, elle vaut ce qu'elle vaut, mais c'est vrai que, il me semble, Frédéric peut-être dira autre chose, mais que quand on parle, en tout cas, de la Corse comme un endroit de récit et un endroit du contemporain, on ne peut pas enlever cette dimension qui est que c'est un endroit colonisé. Et comme tous les endroits colonisés, il a été colonisé aussi par et dans les esprits. Et donc on est effectivement assailli par les préjugés coloniaux, le folklore, l'exotisme, les clichés, qu'on a nous-mêmes, à plein de moments, intériorisés. On a intériorisé nous-mêmes le folklore qui venait pas de nous, jusqu'à le retransformer, à en faire quelque chose qui serait censé être la réalité de ce qu'on est, mais qui est totalement faux. Je sais pas si c'est clair, hein, ce que je dis, mais en tout cas, ça, ce préjugé colonial me semble essentiel pour examiner les films, qu'ils viennent de Corse ou qu'ils parlent de la Corse, tout en venant de l'extérieur. Ça me paraît vraiment important.
Frédéric Farrucci.
Oui, je suis d'accord avec les propos de Thierry. La Corse, c'est une île qui invite l'imaginaire et qui a été source de clichés depuis des centaines d'années, que ce soit via la littérature, via les actualités et via le cinéma. Et à chaque fois, effectivement, c'est un point de vue qui majoritairement vient de l'extérieur et qui n'est pas forcément nourri par une vraie curiosité du territoire. Et que donc c'est vrai que pour nous, cinéastes corses, quand on s'empare de notre territoire, c'est très important de pouvoir évoquer une complexité et de jouer avec ces clichés, parce que les clichés se nourrissent toujours d'un petit peu de vérité, mais de parler depuis l'intérieur, parce que nous ne sommes pas simplement spectateurs de ce territoire, nous en faisons partie, nous sommes partie prenante. Donc il y a quelque chose de d'essentiel pour nous dans la justesse de ce qu'on y évoque.
Oui, puisque les choses remontent à loin, on peut dire, depuis les romantiques. Beaucoup de préjugés et beaucoup de lieux communs remontent au romantisme, d'ailleurs, qui excellait dans l'image d'Épinal et puis, les espèces de représentations comme ça qui ont la peau dure. Tout commence à Mérimée, les Colombards.
Mérimée n'est pas notre ami.
Oui, ça j'imagine.
Et Maupassant non plus.
Maupassant non plus, donc il y a cette image.
Et Daudet, Alphonse Daudet, on va
quand voilà. Même, voilà. Donc vous avez quand même fort à faire avec une tradition littéraire enseignée dans les écoles, qui est extrêmement diffusée, le classique littéraire. Il faut aller contre ça, ce qui n'est pas évident.
Oui, bien sûr. C'est certainement un des enjeux des cinéastes, qu'ils soient d'aujourd'hui ou à venir, de se réapproprier ce qu'on est, d'où on vient, notre histoire. Et notre réalité, la plus contemporaine et pas forcément la plus ancienne, quoi. C'est avec ça qu'on travaille, c'est avec les lieux, les personnages, les récits qui sont d'aujourd'hui.
Mais je trouve intéressant que
là,
on a ce focus autour du cinéma corse à Reims-Pollard, et il me semble que ça exprime quelque chose qui a bougé dans le cinéma corse, il y a une vingtaine d'années, un peu au moment où vous êtes apparu, au début des années 2000, avec des courts-métrages, et puis après, avec vos premiers longs-métrages, on a l'impression que vous êtes là tous les deux, il y a Julien Colonna, il y a d'autres cinéastes encore qui sont là, on a l'impression que ça bouge, Que tout d'un coup, il y a une génération, une nouvelle génération de cinéastes corses qui tout d'un coup parlent de leur île, de leur société. J'ai l'impression qu'on avait beaucoup moins ça dans le cinéma du XXe siècle.
On l'avait un peu, on n'est pas quand même une génération spontanée. Il y a des gens comme Ange Leitch, par exemple, Marie-Jeanne Thomas. Il y a beaucoup de gens qui ont emprunté souvent les voies, qui ont emprunté le champ de l'art, ou les voies du documentaire plus que celui de la fiction. Mais c'est vrai qu'on a une concentration en peu de temps qui est assez remarquable au sens premier du terme. C'est il se passe tout ça. Mais c'est le fruit, on en a parlé aussi, d'une filière cinéma en Corse qui est le fruit d'un long travail de femmes et d'hommes au pôle audiovisuel de la collectivité de Corse, mais il y a une volonté politique derrière aussi, il y a une cinémathèque de Corse, il y a un DU à l'université, donc il y a tous ces éléments-là qui sont connectés, mis en synergie pour que émergent des regards, des points de vue et des cinéastes.
Et il y a aussi, un courant littéraire avec à ses avant-postes des auteurs comme Jérôme Ferrari ou Marco Biancarelli qui ont commencé à évoquer la Corse depuis l'intérieur au début des années 2000. Et je crois qu'on peut dire qu'on s'inscrit aussi dans ce courant. Ce n'est pas seulement un courant cinématographique.
Mais d'ailleurs, le dernier film de Thierry a son image et adapté d'un livre de...
Oui, tout à fait, du roman du même nom de Jérôme Ferrat, mais aussi il y a des photographes, il y a une scène frémissante et naissante, mais il y a une scène pas simplement cinématographique ni littéraire, mais voilà, encore une fois, il y a des artistes, il y a des photographes, et il y a tout ça. Le point commun peut-être entre Frédéric, Julien, Colonne à quelques années près, mais c'est qu'on est plus ou moins d'une même génération. Donc on a été au contact des mêmes événements sociaux, politiques, historiques, souvent douloureux, et je pense que c'est pas étranger à la nature des films qui y sont nés.
Avec une volonté quand même de traiter l'événement assez vite, de ne pas laisser cette espèce de sommeil ou de déformation. Là, le traitement de l'événement va assez vite. Vous vous emparez de la mémoire assez rapidement.
Mais le réel nous fait souffrir, nous nourrit et nous donne envie de le questionner, en fait. Donc je pense que notre démarche, c'est ça, c'est de questionner le réel dans lequel on est immergé.
Sans laisser le folklore ou l'imaginaire prendre le pas.
Oui, et puis d'ailleurs c'est une des questions, de la discussion qu'on a pu avoir avec Aude Esberg, qui est derrière nous et qui a programmé tous les films corse, c'est la question du à la fois, effectivement, c'est les films, Le Mohican, Le Royaume, à son image, ils ont une dimension de film noir, mais pas tout à fait. Parce que le point de départ, il est pas forcément une histoire, mais il est le réel, le plus, de temps en temps, le plus difficilement prenable. Et que les films ont une incidence sur nos vies, et j'allais dire, c'est peut-être un peu présomptueux, mais aussi sur la vie de la communauté, du peuple en Corse, puisque en Corse, les films sont vus, commentés, les gens se les approprient, les aiment, les défendent, ou au contraire les critiquent avec souvent beaucoup de virulence. Mais il y a quelque chose comme ça qui se partage et qui a un effet immédiat. Donc la question du polar, elle est presque secondaire, j'allais dire, parce que nous, on raconte ce qu'on voit, ce qu'on vit, même si on le vit de façon indirecte.
La puissance que moi j'ai revu ou vu toute une série de films avant cette émission pour la préparer, j'avoue que l'intensité et presque, je dirais, le caractère oppressif et angoissant de ce cinéma vient du fait que ça ne sont pas des films noirs. Ça vous échappait complètement. J'ai un imaginaire préformé, un vocabulaire un peu préécrit, comme ça, dont il suffirait de se couler dedans, à la limite, de lui faire parler corse, comme on pourrait lui faire parler sicilien, sarde, marseillais, ce qu'on veut. Là, on est dans quelque chose qui dépasse tout de suite les lieux communs de genre.
C'est heureux, mais effectivement, je crois que... Parce que ce qui nous nourrit, c'est encore une fois, c'est le territoire, c'est notre territoire, avant d'être nourri par des goûts cinématographiques. C'est quelque chose qui arrive peut-être en deuxième couche. Je crois que ce qui nous meut le plus, ce sont les situations et les personnages de ce territoire. À tel point qu'on est un peu, on est même apostrophé sur notre territoire par les une partie de la population qui juge que l'image que l'on donne de la Corse était une fois de plus une image de violence, ce à quoi on a dû se justifier à divers moments en disant que nous de passer un coup de peinture rose sur nos films pour essayer de rendre le paysage plus beau, c'était pas être honnête ni juste par rapport à ce territoire ni à sa population.
Oui, je pense que c'est aussi la singularité des films qui sont faits en Corse, c'est la double adresse, c'est-à-dire une adresse en dehors de l'île et des limites de l'île, qu'elle soit en France ou ailleurs, et en Corse, où tout d'un coup, on fait des familles. La Corse aussi, c'est ça, c'est la famille déguisée en nation. Donc, quand on montre les films, on les montre, c'est comme si on montrait les films à notre propre famille. Donc, c'est gênant, à des moments, pour plein de raisons. Il y a un peu gênance, comme disent les jeunes, à des moments où, voilà, et du désaccord possible qui est salutaire. Même si on nous interpelle, comme le dit Frédéric, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Bon, ben, ça serait bien maintenant de que vous parliez d'autre chose. Il n'y a pas que ça. » Et c'est vrai qu'en même temps, nos films, ils sont aussi, il me semble, complexes et ils ont plusieurs couches, plusieurs strates. Ils ne sont pas que l'histoire, ils ne sont pas que l'intrigue, ils ne sont pas que le récit, ils ne sont pas que la noirceur ou la violence. Il y a aussi d'autres aspects.
C'est aussi un cinéma de personnages, donc de personnes. Donc même s'ils sont impliqués dans des actions violentes, par ailleurs, ce sont des gens qui ont une vie qu'on ne peut pas résumer à une action. Et pour revenir à ce que vous disiez sur le policier, il faut quand même dire qu'il y a deux grands aspects du cinéma policier. D'un côté, il y aurait effectivement le film noir où on est avec des histoires archétypiques de bandits, de voleurs et tout ça. Mais il y a aussi toute une veine du policier qui se nourrit de la réalité, qui est toujours très ancrée dans un territoire. Par exemple, toute l'histoire du policier italien est très ancré sur, par exemple, ces années 70. On parlera dans un prochain Mauvais Genre du livre que lui consacre Jean-François Roger, mais il y a toute une production italienne où on part de ça, de cette stratégie de la tension, des brigades rouges. Donc le cinéma policier, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est vraiment une fenêtre sur le monde. Autant ça peut être une rêverie, j'allais dire, d'artistes, à partir de Code, de La Femme Fatale et tout ça, ou alors c'est une lecture des territoires, des histoires très contemporaines et comment, alors on fait fiction mais on est tellement imprégné de réel que les deux sont très mélangés et ça me semble la particularité de vos films.
Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on pourrait imaginer des polars en Corse qui soient beaucoup plus, qui aient une force d'abstraction beaucoup plus forte. Et là, c'est vrai que les nôtres ont j'ai l'impression une force concrète des détails à cause des lieux, à cause de l'attention portée à la manière dont on s'adresse les uns aux autres et comment on se parle, qui leur donne un ancrage, non pas naturaliste, parce que les films sont pas, à partir du moment où la tragédie auto-centre, le naturalisme il est plus là, mais en tout cas qui ont un concret qui peut-être renseigne le spectateur, la spectatrice sur un état des choses à un moment donné. À cet endroit-là.
Les films, on va en parler. Philippe Rouillet, puisque d'une part, ils ont été diffusés au Festival de Reims. Nous, on peut
ils sont tous accessibles pour ceux qui n'étaient pas là au festival. Il faut dire qu'ils existent en VOD ou en DVD. Et tous les films dont on parle ce soir, vous pouvez les commander, les regarder. Je veux dire, on ne parle pas dans le vide. C'est intéressant quand même de rappeler ça.
La preuve en est.
Oui, Azé, comme vous y. Tu travailles tard, hein? Tu m'offres un verre?
J'ai pas encore fini, là.
Ah merde, je pensais me boire un pastis avec toi. Tu te demandes pourquoi je suis là à cette heure-ci. Ton terrain nous intéresse.
C'est pas constructible, ici.
Ça, c'est pas ton problème.
Moi, je travaille sur ce terrain.
300 000.
Bon, faut que je finisse, hein. Je me lève tôt demain.
Oh, Joseph, réfléchis bien.
Bonjour.
Oh, Joseph, ça va? Fatigué.
T'as joué une minute?
Bien, oui.
Michel Bottès, il est venu te voir pour son tarante.
Oui.
Et tu lui as dit quoi?
Je lui ai dit quoi? Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Je lui ai dit oui. Et en plus, je l'ai remercié.
Tu lui as dit oui alors qu'à moi, tu m'as toujours dit non.
Oh, Joseph, tu plains à 3000. Je t'ai toujours dit non parce que tu m'as toujours fait des offres au prix du terrain agricole. Lui, il me lâchait au prix du terrain constructible alors qu'il n'est même pas. Tu connais le ratio? 42. Il me propose 42 fois plus d'argent que toi. Quand tu dis 100, il dit 4002. Quand tu dis 10 000, il dit 400
000. Ah, Fabé.
Fabé, oui.
Et tu lui as demandé ce qu'il va y faire?
Mais je m'en branle, Joseph. Même s'ils veulent faire une usine de pétrochimie, je leur vends à ce prix-là. J'ai des enfants, moi. Toi, t'es seul. Moi, j'ai des enfants. Un type m'offre une fortune pour un terrain dans ma famille. C'est pas quoi faire depuis 4 générations. Et tu veux que je me demande ce qu'ils vont y faire? Je vais te dire un truc, Joseph. La proposition, elle me convient. Alors, je me pose pas de questions. Mais même si elle me convenait pas. Joseph, on dit pas non à ces gens-là.
On dit pas non à ces gens-là, Philippe.
C'était un extrait donc du Mohican, voilà. Un film de Frédéric Fauci, sorti en 2024. Et donc, c'est l'histoire d'un berger qui a son exploitation sur le littoral. Et on lui fait une proposition de rachat de son territoire pour évidemment en faire quelque chose de touristique, d'immobilier. Et lui va dire non. Lui va dire non. Et à partir de là, c'est pour ça que le film s'appelle Le Mohican. Ou le dernier des Mohicans, si vous préférez, parce qu'évidemment, il va avoir face à une mafia qui veut absolument mettre la main sur ce territoire-là. Et c'est ce qu'on a entendu, cette proposition d'achat. Et puis, il va avoir un voisin qui, lui, a accepté la transaction. Et on dit les choses. C'est-à-dire qu'au départ, c'est un logement non constructible. Mais évidemment, il ne faut pas s'occuper. Il y aura un arrangement. J'ai été très frappé par la séquence d'ouverture du film, où il y a un vieil homme qui s'adresse à la caméra et qui explique ce que nous, on savait, mais que je n'avais pas entendu raconter dans un film, à savoir que les terrains près de l'eau avaient été donnés initialement aux femmes parce qu'ils n'avaient pas de valeur. Et puis après, ils ont été nettoyés. Et du coup, ils ont une valeur touristique. Et à partir de là, ça a changé complètement l'économie. Mais au départ, vous avez... Parce que, Frédéric, avant de faire de la fiction, vous avez été documentariste. Et vous aviez fait un documentaire sur ce berger.
Absolument. J'avais fait un documentaire sur un berger de littoral, de l'extrême sud de la Corse, qui s'appelle Joseph Terrazzoni. Et en fait, c'était dans le cadre d'une série qui évoquait l'agropastoralisme en Corse au XXIe siècle. Alors moi, c'est un sujet qui m'intéresse sans me passionner. Mais par contre, j'avais rencontré cet homme-là, et au lieu de parler de son métier, il avait un propos, une parole très politique. Il était très disert et me disait qu'il était devenu... Regardez autour, je suis devenu une anomalie dans le paysage. Je suis le dernier des Mohicans. Je ne pourrais pas transmettre l'exploitation à mes fils parce que ça serait les mettre en danger, tellement la tension sur le littoral est forte et tellement la spéculation foncière fait que ça attire des gens dangereux qui convoitent énormément le terrain. Et donc, en partant de cette rencontre, moi, j'ai eu envie d'extrapoler, en fait, de me dire, s'il reçoit demain la visite d'un de ces personnages, qu'est-ce qui se passe, sachant que c'est une extrapolation très relative, parce que ça s'est produit ailleurs, parce que cette tension qui se noue sur le littoral corse est bien réelle, et qu'il y a des gens qui sont chassés, des gens qui ont de vrais problèmes. Et donc, pour moi, c'était le moyen d'évoquer un réel de cette île contemporaine avec une vision politique, mais j'avais envie d'embrasser le genre pour ça. Parce que quand j'ai débarqué dans sa bergerie, c'est à ça que je pensais au premier chef. Il y avait cette végétation rase, il y avait cette étable en bois, il y avait cet homme jugé sur un quad qui amenait ses chèvres en pâturage. Je me suis dit, mais je suis dans un western. Et après, en y pensant, je me disais que même la situation répondait à des codes de western. Alors, je suis désolé, je sais qu'on a un Reims polar, mais c'est vrai, j'ai pensé le film comme un
western. Entre le western, on peut considérer que le polar est la version citadine du western.
Il y a quelque chose comme ça. Et c'est vrai que le western, le cœur du western, à la base, c'est, C'est le conflit de territoire lié à un conflit de civilisation. C'est exactement ça qu'on vit en Corse. Et puis après, il y a une deuxième dimension du western qui m'attire énormément. C'est la dimension de légende, de mythe. On parle toujours de légende. Ce sont toujours des hommes, généralement, qui sont des légendes au début du film ou qui le deviennent dans le fil du film. Et ça aussi, ça faisait écho pour moi avec la Corse où il y a une sorte de mythologie populaire qui érige au rang de légende des personnalités issues du banditisme ou de la lutte indépendantiste. Donc j'avais envie d'empoigner le genre pour ça.
Oui, parce que là, il y a les deux niveaux qui se fusionnent, c'est-à-dire les problèmes contemporains, c'est-à-dire liés à l'argent, liés à la vente des terres, liés à l'économie rurale et à l'économie de l'île, et puis cette espèce de dimension, je dirais, intemporelle, pas dire archaïque, c'est ça, de l'homme qui affronte la société et qui se retranche. Le recours aux forêts, d'Irene Stjonger, c'est-à-dire on part seul dans la forêt pour trouver un lieu d'honneur, au lieu de maintenir son honneur plutôt que sa vie. C'est un peu ça, il y a cette espèce de double voie.
Oui, alors la notion d'honneur, j'y pensais pas trop, en fait. Moi, je pensais surtout à la notion de résistance, en fait. Il dit non, parce que dire oui, ça serait accepter la fin de son monde, quelque part. La fin d'un monde, de tout un monde. Et donc, il ne peut pas faire autrement que de dire non, mais après, il ne peut pas faire autrement non plus que de fuir s'il veut conserver encore quelques jours de vie. Donc cette fuite m'intéressait énormément et c'était un moyen pour moi aussi déjà d'évoquer le territoire corse dans sa diversité, c'est-à-dire de montrer qu'à quelques kilomètres de la plage et des loisirs qui vont avec, ben on se retrouve dans un territoire beaucoup plus sauvage. Et c'était un moyen pour moi aussi de montrer à quel point cet homme était contraint. De sombrer dans la violence et d'aller chercher une part de plus en plus archaïque et sauvage en lui. Donc cette rentrée dans le territoire, dans un territoire de plus en plus sauvage, pour moi, c'était une sorte de... son parcours, c'est une représentation de sa carte mentale, quelque part.
Voilà, un concert, puisqu'il n'y a pas que la solitude, il n'y a pas que le noyau familial, il y a aussi des cérémonies collectives. Et là, c'était le concert du Mohican.
Oui, mais ce concert, ce n'est pas n'importe quel concert. Ce qui est très intéressant dans le film, c'est que c'est un autre aspect du western qui est celui qu'exprimé Ford, Prince the Legend. Et c'est comment ce personnage de berger va devenir une légende. Il va devenir une légende via les réseaux sociaux. Là, c'est vraiment la vision la plus contemporaine du genre, puisqu'il a une nièce qui va entretenir un fil Twitter X, qui va raconter ses aventures. Et puis, petit à petit, ça va devenir viral. Et là, dans cette séquence-là, il y a un concert, et la chanson qu'on a entendue, c'est une chanson sur lui. C'est une chanson sur cet héroïsme, ce refus de dire non. Et puis, il y a une séquence très belle dans le film où lui-même, dans sa fuite, croise sa propre image sur un rocher. C'est-à-dire qu'on a fait une sorte de peinture et voilà, qui va être reproduite au pochoir, un pochoir de son image comme résistant. Et là encore, je veux dire, c'est vraiment le western, comment on va construire. Et on savait qu'il y avait toute une littérature westernienne et que la réalité de Billy the Kid et de Jesse James n'était pas forcément celle qu'on voyait dans les films. Et voilà, et là, on est au cœur de ça. C'est aussi cette veine-là, raconter cette veine-là.
Absolument. Et encore une fois, on est au cœur de ça aussi bien dans le western qu'en Corse. Il y a ces pochoirs qui sont sur les rochers. C'est quelque chose avec le, c'est une chose avec laquelle on vit nous depuis des décennies. Et effectivement, ce sont des images qui nourrissent énormément les légendes qui se créent en Corse. Voilà. Ce qui m'intéressait, c'était de garder espoir quelque part, en fait, de me dire que ce territoire n'est pas complètement perdu et qu'il est encore possible peut-être d'y résister. Donc j'avais envie de me dire, tiens, l'image de certaines personnalités peuvent inviter la jeunesse à se projeter dans son futur et de se questionner sur contre quoi doit-on se battre.
Alors moi, quand j'ai vu le film, c'était bon, avant sa sortie, en projection de presse, le film avait tout de suite plu. Mais ma grande question, c'était comment le film va être reçu en Corse. Donc aujourd'hui, le film est sorti en Corse. Quel a été l'accueil du film?
Mais il y a une dimension très cathartique. Moi, j'étais très troublé par les projections publiques où j'avais beaucoup de retours de la part des spectateurs, d'expériences, en fait, de vécu qui étaient similaire à ce qu'ils avaient vu ou comparable à ce qu'ils avaient vu dans le film. Et cette évocation de la résistance parlait beaucoup. Effectivement, comme le disait Thierry, nous on s'adresse beaucoup aux nôtres, entre guillemets. Et il y avait un vrai souci de savoir comment ça serait perçu. Et j'étais très, très troublé et enchanté par ça.
Et au départ, vous avez été très aidé, je crois, sur le tournage. La population était vraiment très encline à vous aider parce que le film a été fait avec un budget plus réduit qu'il n'aurait dû être. Et vous avez été très...
Oui, très, très. Il y avait un grand désir. Ça suscitait un grand désir de participer à ça compte tenu du thème et de la dimension politique, de la dimension politique du film, en fait.
Culture, Mauvais Genre, François Angelier.
Mauvais Genre à Reims, à l'occasion de la 6e édition du Festival international du film policier Reims Polar, c'est un événement France Culture, monsieur Roulier. Alors, on parlait du Mohican, maintenant on va parler des Apaches.
Oui, donc,
mais on ne change pas de terrain, on ne change pas de...
C'est assez marrant de retrouver une communauté de titres. Et évidemment, il n'y a pas plus d'Indiens dans les Apaches, Thierry Peretti, que de Mohicans au sens indien dans le film de Frédéric.
Ouais, on est toujours l'Indien de quelqu'un. Hein, après, de qui ou le Mohican de quelqu'un. Mais oui, c'est les Apaches. Mais c'est un titre qui venait des Apaches de Belleville, en fait, qui a été trouvé au moment où il y avait une exposition à Paris
Les mauvais garçons de la Belle Époque.
Ouais, hein. Voilà, exactement.
Casque d'or.
Exactement. Le préfet de police de l'époque avait dit ces Apaches, il faut les. Voilà.
Et donc, c'est votre premier long métrage, oui. 2013.
Ouais.
Là, vous partez d'un fait réel.
Oui, un fait divers qui avait défrayé la chronique où trois jeunes gens, trois amis, avaient tué un de leurs amis et l'avaient enterré dans la forêt avant d'être découvert, avant que leur crime soit découvert parce que l'un d'entre eux s'était dénoncé. Mais 2 ans plus tard, et que ça mettait en scène non pas des bandits, non pas des activistes armés, mais des adolescents, certains d'origine marocaine, d'autres deux d'origine marocaine, deux d'origine corse, et dans un endroit très particulier qui est Porto Vecchio, donc qui est vraiment l'extrême sud de la Corse, et qui est un endroit très très particulier en Corse, parce que c'est un endroit de haut tourisme l'été, avec des centaines de milliers de vacanciers touristes qui passent, et l'hiver qui est un endroit quasi spectral. Alors c'est un peu moins vrai aujourd'hui, il y a plus de monde qu'au moment où j'ai tourné en 2013, qui est déjà une autre époque. En fait, 2013, ça paraît il n'y a pas si longtemps, mais en fait, on est déjà on a basculé de société, d'époque, et c'est un film qui me... c'est une histoire qui m'avait profondément bouleversé, qui a été l'occasion pour moi d'aller enquêter dans cet extrême sud, qui n'est pas l'endroit d'où je viens en Corse, parce que moi je viens comme Frédéric d'Ajaccio, et que la réalité culturelle, politique, topographique de l'extrême sud et de Porto Vecchio en l'occurrence, n'est pas du tout celle d'Ajaccio. Et les récits et les imaginaires qui y sont liés ne sont pas du tout la même chose. Donc dans un territoire aussi petit, on va dire limité, que l'est l'île de Corse, on voit bien qu'il y a des micro-réalités, des sous-réalités qui coexistent et qui sont des fois très à des années-lumière l'une de l'autre. Et ça, c'est une des grandes découvertes quand on fait du cinéma et de voir à la fois le réservoir inépuisable de récits qu'il y a partout en Corse, et en même temps de voir les nuances, la complexité, l'altérité. Ça, c'est une grande découverte pour le coup politique. Quand on essaye de résumer un territoire ou une micro-région ou un peuple à une ou deux caractéristiques, on se rend compte à quel point c'est pas tenable politiquement. Et la Corse comme terrain d'observation nous permet de vérifier tous les jours, de vérifier ça.
Parce que cette histoire aurait pu se passer à Marseille, aurait pu se passer en métropole.
Oui et non. Non, parce qu'elle se passe... En tout cas, je ne me suis pas posé la question de son universalité du tout. Je me suis vraiment posé la question de son ultra-localité. C'était ça qui m'intéresse. Qu'est-ce qui fait qu'elle n'a pas pu... Et d'ailleurs, on l'a tourné dans les lieux mêmes du drame et pas ailleurs. Il n'était pas question de dire pour moi, justement, ça aurait pu se passer dans un autre endroit de Corse. Non, ça s'est passé à Porto Vecchio, qui est un endroit très particulier, très le plus, il me semble, en proie au tourisme de masse, et avec tout ce que ça génère comme violence, comme frustration, comme inégalité, comme spéculation, et de voir quatre jeunes gens où les questions aussi... on va dire ethniques, sont aussi vécues d'une manière beaucoup plus, voilà, très, très singulière et très différente qu'ailleurs en Corse. Donc oui, parce que d'une certaine façon, c'est presque les Apaches, c'est presque une adaptation de Stand By Me, à la fois le film de Rob Reiner, mais aussi la nouvelle de Stephen King qui s'appelle The Body. Mais en même temps, il est presque une reproduction exacte de... ce qui s'est passé. Le film se tient à égale tension entre ces deux, entre cette ultra-localité et quelque chose de plus universel.
Parce qu'en fait, en deux mots, l'histoire, c'est qu'il y a un cambriolage par des jeunes dans une villa de touristes.
Oui.
Y a un peu un caïd local qui veut mettre de l'ordre dans tout ça parce qu'il a envie que les touristes continuent à être là,
oui,
qu'il y ait quand même un côté vous pouvez être en Corse, tout va bien. Et finalement, les gamins vont arriver au meurtre pour éviter d'avouer un petit larcin, parce que c'est vraiment un petit cambriolage.
Oui, par fantasme des représailles. Mais c'est pas des touristes, c'est pas une villa de touristes, c'est une villa de personnes qui ont acheté une maison en Corse,
oui,
parce que c'est tellement beau et tellement authentique.
Oui, mais pour moi, c'est quand même des touristes, dans le sens que c'est pas des Corses. C'est des gens qui viennent de l'extérieur, et c'est une maison secondaire.
Oui, bien sûr, bien sûr. C'est d'ailleurs le message du film. N'achetez pas en Corse. Je le dis, voilà, ne venez pas acheter. Restez, venez quelques jours en vacances, mais ne venez pas acheter.
J'ai pris que ça.
C'est tout.
J'ai pris que ça, j'ai pris. Tu trouves ça
non,
quoi.
J'ai pris que ça, je te promets, j'ai pris que ça.
Moi, j'en suis mort. Dis-moi.
Il y a qui avec toi?
Des gitans.
Des gitans en Casablanca.
Comment des gitans? Ne mens pas.
Des gitans, ils roulent en 36 sur le port, je peux les voir eux.
Putain, je me suis perdu l'après-midi, j'ai rétamé la voiture pour une chaîne pourrie et trois films. Si tu voles, vole au moins.
Bon, écoute-moi bien, je peux te voir nulle part, tu as compris?
Comment ça?
Je peux te croiser, comment ça? Je peux te voir nulle part,
mais
ça veut dire?
Je
m'en bats les couilles, tu restes au quatre chemins. Tu as les kebabs, tu as ta mosquée, tu as tout le reste, tu as compris ou pas?
Non, on te croise plus, ni toi, ni tes cousins, ni tes malades, tu as compris ou pas?
Comment ton numéro de téléphone?
J'ai pas de téléphone.
Je viens de te joindre.
J'ai pas de téléphone.
Arrête le scooter qu'il a.
Comment ton numéro de téléphone? Donne le téléphone.
J'ai pas de téléphone.
Tu comprends quoi, quoi?
Je te promets, rate fouille si tu veux, j'ai pas de téléphone.
Tu connais son oncle?
Mais
tu sais ce qu'il a fait, son oncle?
Tu veux quoi? Tu veux finir dans le maquis? Regarde-moi. Bah, si on redescend, à cause de toi, pour tes petits amis là, on va lancer le quartier. Tu as compris ou pas?
Oh, Polo, il faut aller laver la voiture. Hein.
Si tu
on va pas laver tous les jours,
Non,
on va la laver, attends, je veux pas aller en ville comme ça, non, moi ça.
T'as compris.
Et genre, on va ramener ça à ton oncle, on va prendre
des pantalons. Regarde-moi.
Oui, oui,
Bah, niquer la voiture,
garçon.
Oh, moi ça,
le char.
Voilà un extrait des
Apache.
Et moi, ce qui m'a frappé dans le film, au-delà de tout ce qu'on a dit là, et de la manière dont les lieux sont filmés, mais il y a aussi les corps qui sont filmés. Il me semble que vous avez été très attiré par filmer ces adolescents, comment ils s'intègrent dans le paysage, comment ils sont invisibilisés ou au contraire traqués. Cette idée du corps était quelque chose auquel vous avez pensé.
Oui, alors oui, mais c'est sûr, c'était l'envie aussi de filmer cette bande, ces quatre-là, François-Joseph Couliot, Lamza Mediani, qu'on a vu après, par ailleurs, dans plein de films, dont ceux de Bertrand Bonello, par exemple, Aziz Aladachi, Joseph Hébrard. C'est cette petite bande que je trouve qui, moi, m'attache et me touche beaucoup, parce que c'est ni les gamins les plus populaires, ni des cas sociaux, comme on... Voilà, c'est une espèce d'adolescence un peu normale, grise. Et c'est vrai qu'ils sont tous les quatre acteurs, je veux dire, particulièrement doués. Ils ont un rapport un peu burlesque à l'espace, dans leur façon de, on le voit, dans leur façon de bouger, de s'attraper. Et donc ça, c'est vrai qu'on a eu à cœur d'essayer d'enregistrer ça.
Vous avez fait un casting sauvage pour les trouver?
On a fait un casting sauvage. C'est Yuna de Perrette qui a fait le casting. Petite parente à moi.
On
a
fait comment le casting s'est-il déroulé? Parce que ça, c'est quand même une dimension essentielle des films dont nous parlons aujourd'hui, les vôtres et encore ceux d'autres cinéastes. C'est l'extraordinaire puissance du casting. Je veux dire, à aucun moment on a affaire à l'acteur qui joue. Enfin, il y avait une puissance d'incarnation, une évidence dans la vérité des personnages, une espèce de manière de distribuer aussi bien l'amour, la violence que la chaleur familiale, l'amitié, qui est absolument extraordinaire. Donc là, vraiment, le casting... Alors, on vous pose la question.
Pour nos films, à part le premier dont j'ai parlé, donc c'était Yuna de Beretti qui a fait le casting, nos films... Enfin, les moins, c'est vraiment... Une des collaboratrices pour moi les plus importantes, qui est Julie Allion, qui est la directrice de casting, mais qui a un rapport à la mise en scène, pas simplement à la simple distribution des rôles. Et les castings que met en place, les principes de casting que met en place Julie, se déroulent effectivement sur des semaines et des semaines. Et souvent, il y a un casting de sauvage, c'est-à-dire un casting ouvert à des actrices non professionnelles aussi, mais pas simplement, parce que l'idée, c'est qu'il y a un mélange entre des acteurs professionnels, des actrices professionnelles et des non-professionnels. Et c'est souvent des castings qui se déroulent sur des... Non pas à partir de comme on fait habituellement, de scènes qu'on donne à jouer aux acteurs pour voir s'ils sont plus ou moins bons, mais d'entretiens multiples et sur un temps long qu'on mène avec eux, de manière à ce que les acteurs et les actrices qui sont choisis sont eux-mêmes auteurs du film. On continue à écrire. Le scénario n'est que... Enfin, en tout cas, pour moi, c'est pas qu'il est qu'une base, mais il est une étape qui ne peut pas être suffisante pour tourner le film tant que la troupe d'actrices et d'acteurs s'en est pas emparée et réécrit et travaillé avec moi. Et voilà.
Donc concrètement, avec ces quatre jeunes, vous avez fait comme des répétitions,
des ateliers du temps, mais oui.
Pendant combien de temps?
Pendant assez longtemps, pendant presque un an et demi. Hein.
Ah oui.
Ouais, ça a été très long. Ça a été très long, mais c'était pas simplement pour se diriger parce que le film, c'est le film, c'est important les films. Mais ce n'est qu'une petite partie pour moi du projet. L'idée, c'est aussi de passer du temps ensemble, de s'interroger sur, en l'occurrence pour les Apaches, qu'est-ce qui s'est passé, comment les raisons du drame, comment on en vient là. C'est aussi une enquête collective qui est menée. Et puis bon, il y a aussi un film qui sort en salle. Mais ça ne dit pas tout le long, le long process qu'on a fait tous ensemble, la réflexion commune. Voilà. Donc ce temps, il n'est pas simplement pour arriver à bien jouer ou pour trouver les bons acteurs, les bonnes actrices. Il est aussi ce temps collectif à s'interroger sur qu'est-ce qui s'est passé. Et encore, c'est d'autant plus important, cette question-là. Parce que souvent, la réalité, la vérité, on l'a dit tout à l'heure en début d'émission, elle est capturée. Elle est capturée par l'extérieur, par des journalistes à l'extérieur ou par des responsables politiques à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Elle est réécrite, elle est récupérée, elle est instrumentalisée. Donc le travail qu'on peut faire avec des acteurs et des actrices au cinéma, il est de réinterroger le mythe ou la légende ou le narratif autour de qu'on met en place autour d'une communauté ou d'une histoire.
Mais il y a un personnage étonnant d'ailleurs dans les Apaches, c'est le le gros, je veux dire, son
Jo.
Alors, c'est, toujours, c'est le personnage du...
Il est costaud.
Du costaud, un peu trop costaud. D'ailleurs, on sent qu'il court peut-être pas aussi vite que les autres. Qu'il y a quelques... Mais, alors, lui, il a une vision de lui-même et une vocation. C'est l'imitation.
Oui.
Alors, c'est extraordinaire parce que là, vous l'utilisez pour imiter, je dirais, les touristes. Oui. Les Gaulois, ceux qu'on appelle les Gaulois qui viennent du continent. Et là, c'est un personnage très singulier, puisqu'on sent qu'il cherche une place, et il trouve cette place de l'imitation. Donc, il crée une distance entre lui et l'action, et en même temps, il pousse dedans, puisqu'il fera partie, je dirais, de...
Oui, bien sûr.
Sacrifice final.
Bien sûr. C'est pas un très bon imitateur.
Non,
mais y a une vocation possible chez lui de l'imitation qui est déjà... Il est déjà acteur, hein, il est déjà en train de se projeter, mais c'est vrai que oui, c'est quelque chose qui est, ça faisait partie des caractéristiques importantes du personnage, le fait qu'il veuille être imitateur.
Oui, puis c'est un film Les Apaches où il y a une mise à mort qui est presque pas ritualisée, mais enfin quand même, c'est dans un endroit à part avec un objet hautement symbolique, un fusil de chasse. C'est en deux fois, donc il y a véritablement une séance de mise à mort. C'est pas une liquidation pure et simple, et qui fait un peu contrepoids avec les autres mises à mort qu'on peut voir dans vos films, Thierry de Peretti, qui sont des liquidations là du coup rapides, expéditives, vues de loin. Puisque ce qui n'est pas le cas là. Donc il y a c'est toute une réflexion sur le meurtre. Avec moi, j'avoue que j'ai été extrêmement impressionné par cette manière de mettre en scène ces assassinats comme ça, qui font partie d'une feuille de route. Aujourd'hui, penser à liquider un tel.
Tu parles par exemple d'une vie violente.
Oui, voilà. Le début d'une vie violente avec cette voiture qui est la mise à feu et tout.
Oui, oui.
Là. Il y a quand même une réflexion qui est menée, presque anthropologique, sur le fait de tuer.
La question de l'assassinat est au centre, et au centre aussi certainement de mes angoisses, de mes peurs et de mes colères. Voilà, on va pas rentrer là-dedans maintenant, on n'aura peut-être pas le temps, mais c'est vrai qu'on a pu assister de manière directe ou indirecte, je parle de gens de notre génération, à pas mal de choses comme ça auxquelles on n'aurait pas dû, sans doute. La question de la représentation de la violence, la question de la représentation des meurtres, évidemment, elle pose des questions d'abord morales. Est-ce qu'on montre, est-ce qu'on montre pas? Et si on montre, comment? Évidemment, donc, des questions de mise en scène. Les questions morales pour les Apaches, elles sont liées à la culpabilité. Parce que c'est un groupe de jeunes gens, adolescents, inspirés de personnes qui ont existé, qui ont été... et qui ont été jugés, condamnés pour leur acte. Donc, moi, je ne fais pas des films pour ni condamner les gens une deuxième fois, ni pour les faire mourir une seconde fois. Mais il faut bien montrer les choses. Il faut bien appeler un chat et se confronter à la réalité de ce qui s'est passé, et de se dire à plusieurs, mais comment ça a pu se passer? Et donc, de montrer que c'était l'enjeu de cette scène-là, en tout cas pour les Apaches, de montrer que c'était à la fois quelque chose de prémédité et de totalement improvisé. Prémédité parce qu'effectivement, ils cherchent leur camarade toute une nuit pour aller lui régler son compte, alors que ce n'est pas du tout des assassins professionnels. Et improvisé parce qu'au moment où ils peuvent le faire, on voit bien que c'est totalement... que c'est seconde après seconde que la chose s'invente, et que ce n'est pas des tueurs froids. Et voilà. Ce qui est un cas finalement juridique assez... inédit, c'est-à-dire que c'est à la fois prémédité et pas prémédité. Donc on pourrait les accuser de ça, et en même temps on voit bien que c'est pas la réalité, pas si échappe un peu à cette appellation. Ça, c'était l'enjeu avec les acteurs et avec l'image, d'essayer de rendre compte au présent de cette singularité.
Alors que dans le Mohican, la mort qui déclenche tout, on la voit pas.
Oui, non, mais il y avait, mais c'est là où je rejoins Thierry, c'est qu'il y a un point de vue moral à avoir et ça passe par la mise en scène concernant la violence. En fait, comment faire en sorte de la représenter en essayant d'être juste sans pour autant l'esthétiser, sans pour autant avoir de complaisance vis-à-vis d'elle. Et donc, effectivement, je mets deux personnes en présence. Je sais déjà que le spectateur m'est acquis et j'ai pas envie de créer une jouissance sur la scène dans laquelle il va mourir, en fait. Donc, et je me suis dit qu'il fallait la faire hors champ, justement, pour ne pas susciter ça. En termes d'informations, j'avais ce qu'il me fallait. Et en termes de mise en scène, ça me satisfait beaucoup plus.
Là.
Content qu'on pourrait être ici.
Ça veut dire quoi, ça?
Quartier arabe, là.
Quartier arabe de quoi?
Moi, je vais jamais par là.
Ah, vas-y, tu habites dans une ville que tu connais même pas et tu pars. Y a pas de quoi être fier.
Tu peux me dire d'où vous sortez tous les arabes?
Et toi, d'où tu sors?
Moi, je suis chez moi.
T'es chez toi, t'es un français comme les autres, qu'est-ce que tu
penses? C'est vrai. Zogomi ka franchise un jour. Je suis pas français, mettez-vous ça dans la tête.
Sub, arrête-toi là, y'a un type. Excusez-moi, vous avez pas vu un jeune qui traîne par ici?
Non, pas la français.
Non, mais il est jeune, il a un t-shirt rouge, il traîne vers là. C'est un Marocain.
Oh, là-bas, jeune.
Il y a des gens là-bas.
Demandez.
Vas-y, roule, c'est un portugais, comprends rien.
N'importe quoi. Les gars, vous êtes en pleine hallucination. Aziz, il est jamais là. Aziz, il est à Bastia ou je sais pas où, mais jamais il est là.
Mais qu'est-ce que tu en sais, toi? Tu vois pas que tu dis que des conneries?
Qu'est-ce que tu sais que c'est lui qu'on cherche en plus?
Ça va, mais la faites pas à l'envers. De toute façon, si j'avais su que vous sortiez pour ça, je serais pas venu. Pourquoi vous le cherchez maintenant?
Parce qu'on a des trucs à régler avec lui.
Quel truc?
Voilà un extrait des Apaches de Thierry de Peretti, de nos deux invités ce soir dans Mauvais Genre, à l'occasion de Reims Polar 2026 avec Frédéric Farrucci. Là, c'est la traque, là. C'est la traque des galapias de la rue Haute, comme dirait l'autre. C'est un peu, ils savent pas trop voir, où aller, comment on fait. Ils posent des questions passants. Enfin, bon, c'est pas le professionnel de la...
Oui, non, c'est pas les professionnels depuis. D'ailleurs, voilà, c'est ça qui est aussi très beau, très triste et très un peu ridicule et tragique. C'est-à-dire que ils le cherchent, ils veulent absolument le trouver. Mais si à la fin de la nuit ils le trouvent pas, je suis sûr qu'ils renonceraient à leur projet. Et à un moment donné, bon, voilà, ils tombent sur lui. Évidemment, la ville est petite, mais ils auraient très bien pu ne pas. Donc, c'est sûr que le Fatoum arrive à ce moment-là, mais il s'en est. Ça s'est passé à. Voilà, ça s'est passé à pas grand-chose.
Alors, Fatoum, tiens, ça c'est intéressant, puisque vous jouez un prêtre dans un de vos films, Thierry de Peretti. La religion, quand même, hein, parce qu'on nous bassine avec la Corse, comme ça, la religiosité. Bon. Mais là, elle apparaît quand même assez peu. Sauf effectivement là, dans ce personnage de prêtre.
À son image, dans le film, à son image.
Le destin, il est quand même invoqué très régulièrement.
C'est le côté tragique. C'est-à-dire que tous vos films relèvent quand même de la tragédie. Par exemple, dans votre deuxième film, Une vie violente, hein, qui était présenté à la semaine de la critique en 2017, qui sort dans la foulée, c'est un jeune garçon qui est un jeune fils de bourgeois qui va se politiser, se radicaliser, rentrer dans la clandestinité. Là, on voit vraiment toutes les étapes et qui doit fuir à Paris carrément pour sauver sa peau. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, il y a l'épée de Damoclès qui est au-dessus de sa tête, comme le Mohican. C'est-à-dire que à partir du moment où le pacte a été signé, que le non a été dit, ou le oui, je m'engage, à partir de là, à tout instant, la mort est au coin de la rue. Et c'est très intéressant ce que vous disiez tout à l'heure. En fait, depuis votre enfance en Corse, vous avez vécu avec la mort un peu autour de vous. C'est quelque chose que vous avez vu et qui du coup se retrouve à imprégner votre cinéma.
Bon, alors c'est difficile de parler de ça comme ça parce qu'on a l'impression qu'on est aussi dans les clichés nous-mêmes en disant ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'en tout cas, pour les gens de notre génération, il y a c'est-à-dire des gens qui avaient 30 ans... À l'aube des années 2000, on a vu beaucoup de gens de nos âges faire des choix différents des nôtres, qui étaient ceux du cinéma ou de la création, et certains finir de manière mal et absurde et révoltante. Donc la question du fatum, du destin, tout ça, évidemment, mais ça rejoint ce que je disais au début sur le polar, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça exonère des raisons profondément politiques, historiques, sociales, qui permettent à un jeune homme de 30 ans de perdre la vie assassiné ou à un jeune homme de 16 ans de mourir sous les coups de fusil d'un de ses amis. C'est pas simplement le destin. Il y a des raisons objectives, il y a les conditions politiques, historiques, sociales, culturelles de la violence. Elles sont là et elles sont à prendre en compte et à examiner si on veut y comprendre quelque chose. Parce que sinon, on dit, c'est le destin.
Ray Ferrucci ?
Je suis d'accord. Je n'ai pas grand-chose à ajouter par rapport à ce que dit Thierry. C'est-à-dire que c'est un contexte, en fait. C'est un contexte dans lequel on a grandi. Moi, je le disais quand on était off, que j'ai revu récemment Une vie violente et que ça, j'étais particulièrement marqué par la voix off de la fin, qui est en fait une interview de la fin du film où le protagoniste dit que il a vu un assassinat dans sa jeunesse et que personne n'a commenté ça avec lui, personne ne l'a enlevé de cette scène-là, déjà, en fait. Donc, ça veut dire poser une normalité, quelque part. Et on a affaire avec ça, en fait. C'est-à-dire comment, d'une situation qui est jugée quasiment normale et qui n'est pas commentée, nous, avoir derrière une réflexion politique et esthétique, en fait. Je crois que c'est vraiment l'enjeu de nos films avant de penser à un genre. Quoi.
Il me semble qu'Une vie violente est l'exacte illustration de ça. C'est-à-dire qu'on commence avec un double assassinat qui est très très choquant pour nous spectateurs, parce que tout à coup on est dans une scène de vendange et juste là, sur le bord de la route, deux types sortent de voiture, enfin ils ont l'air assez joyeux et crac, ils se font exécuter. Et après, tout le film va être de nous amener via un autre personnage à comment cette scène a été possible. C'est-à-dire qu'on comprend, au début, on est d'autant plus choqué qu'on ne voit pas, et tout le film va nous amener à contextualiser et à montrer que ce n'est pas gratuit non plus.
Non, bien sûr. Et après, c'est vrai que le film ne s'attarde pas, va pas raconter. Non plus, il est pas là simplement pour déplier ce meurtre et nous expliquer, mais il est plutôt là pour essayer de voir de quelle manière cette violence, encore une fois, qui est liée à un contexte politique très particulier, un climat, un contexte de violence politique très circonscrit aussi à cette époque-là, mais de montrer comment cette violence-là, elle va impacter l'intime. Comment elle va impacter les relations amicales, familiales, amoureuses. Et c'est ça qui, moi, me touche et m'intéresse, comme ça peut m'intéresser ou ça a pu m'intéresser dans des films qui m'ont bouleversé, passionné, notamment des films, je cite toujours les mêmes, mais des films taïwanais, les films d'Edouard Yang, les films d'Aoussia Houssienne, les films de Tsai Ming-liang, qui tout d'un coup ne prenaient pas le temps de me raconter la réalité politique historique de l'île qu'est Taïwan, mais j'en sais plus depuis que j'ai vu leur film sur cette île-là. Je connais cette île-là un peu avec leur film, qui pourtant n'ont fait aucun effort pour me dire voilà, il s'est passé ceci. Ils m'ont donné à voir à travers les personnages, à travers la façon dont l'histoire la plus contemporaine, elle rentre dans la chair des personnages. Et là, j'ai pu comprendre un tout petit peu de cet endroit si lointain.
Avec un mystère qui est quand même celui-ci, c'est-à-dire que vous travaillez sur une terre, un peuple, une langue, un contexte, une histoire, un ancrage, et en même temps, on est dans une universalité totale, et c'est le même cas pour le western, c'est le même cas pour les films de Hong Kong, c'est le même cas pour des cinémas qui sont extrêmement localisés, mais qui en même temps, on a l'impression plus ils sont localisés, plus ils sont universels.
Oui, moi je crois à ça, à la précision, au détail.
Et c'est l'impression que donnent vos films.
C'est le détail qui est important, c'est le détail.
Le détail. Merci infiniment Frédéric Farrucci, merci infiniment merci. Thierry de Periti.
Merci à vous.
D'avoir été nos invités à Mauvais Genre ce samedi dans le cadre de Reims Polar, 6e édition du Festival international du film policier. On est samedi soir, encore dimanche, monsieur Philippe.
Oui, on pourra tout voir. On pourra tout voir. Ben oui, c'est-à-dire qu'on va pouvoir rattraper toute la compétition. Les prix auront été donnés et on pourra voir la compétition et aussi quelques films hors compétition. Donc tout un programme de cinéma pour qui est à Reims ce dimanche.
Autre festival, les Marathons des mots à Toulouse, et j'aurai le plaisir de vous y retrouver pour 2 séances de lecture sur l'eau et le diable, les 8 et 9 avril prochains. Toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleret, Anne de Morin, Louis Le Foll, Molly Arnaud, Martin Folbe, Claire Poissignon, Philippe Rouillet, Pierre-Martin Dugard et François Angelier vous remercie d'avoir suivi Mauvais Genre. On se retrouve la semaine prochaine, on y parlera de l'artiste surréaliste Leonora Carrington.